Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Nous avons d'abord rencontré Sibylle dans les colonnes du journal Le Monde. La journaliste Pascale Crémer a découvert son existence grâce à son fils, alors en terminale, dans un bon lycée de la région parisienne. Tandis que le garçon se traîne, comme la plupart des élèves, autour de la moyenne en philosophie, tout en justifiant que 9 est une note très honorable, Sibylle, elle, a 20 à la plupart des dissertations. On dit d'ailleurs, sans avoir pu vérifier a posteriori, qu'Albert Einstein et le pianiste Glenn Gould, par exemple, étaient, comme Sibylle, atteints du syndrome d'Asperger. On sait aussi, désormais, que la merveilleuse et suédoise Greta Thunberg souffre, ou bien on pourrait dire vit, avec le même syndrome. Souvent dotées d'un quotient intellectuel exceptionnel, les personnes atteintes de cette forme d'autisme sans déficience intellectuelle ni retard de langage ont parfois seulement des difficultés dans la communication et l'interaction avec les autres. Elles ont aussi une grande force de concentration et des capacités intellectuelles hors normes. Peu connues en France, les ASPI, comme on les appelle affectueusement en anglais, sont bien mieux identifiées et acceptées dans les pays anglo-saxons. De nombreuses universités américaines offrent un programme spécialement adapté à ces étudiants brillantissimes. Plusieurs sites de rencontres leur sont réservés sur le net, des conseils prodigués pour draguer un ASPI, entrer en bonne communication avec lui ou elle. Certains ASPI vont jusqu'à défendre l'existence d'une culture autiste au sens fort du terme et par opposition à l'idée qu'ils seraient atteints d'une maladie. Ils organisent chaque 18 juin un Autistic Day Pride pour célébrer leur neurodiversité et leurs différences. Pour l'instant, Sibylle n'en est pas là. Elle a simplement pris la parole un jour devant toute la classe pour expliquer qui elle est et quelle est son histoire qu'elle a également racontée à Leïla Chitli.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Sibylle Grandcola, j'ai 20 ans. En septembre, donc je rentre en terminale littéraire au lycée Lacanal à Sceaux. Alors, je la fais en 2 ans. Donc ça veut dire que j'ai passé 3 matières cette année. Donc j'avais littérature, philosophie et histoire-géographie. Donc je me suis présentée aux épreuves du bac. Et là, à la rentrée, je vais avoir donc les autres matières, donc les langues ainsi que l'option droit. Et en fait, c'est pas ma deuxième terminale. En fait, ce sera ma 5e rentrée en terminale. Voilà. Donc déjà, le premier jour à la rentrée des classes avec le professeur principal, donc mon professeur de philosophie, je suis allée la voir 5 minutes avant en disant « Bonjour, alors j'ai tout en 3 minutes, je suis autiste Asperger, j'ai des particularités, il faut que j'en informe les élèves, alors voilà, est-ce que je peux aller au tableau ?» Donc j'ai dit « Voilà, bonjour, je m'appelle Sibylle, donc en fait je suis autiste Asperger, j'ai des comportements qui peuvent paraître étranges et même parfois je peux vous blesser ou vous agacer, donc dans ces cas-là, il faut me le dire pour pas que ça vous reste sur le cœur. Et puis même moi, ça me rend service. Comme ça, je vais adapter mon comportement. Mais en tout cas, sachez que j'ai jamais du mépris, que je suis pas hautaine, que j'ai très envie d'être intégrée. Et aussi, je suis une hypersensibilité sensorielle. Donc si vous me voyez fermer les yeux, c'est pour me protéger la lumière. Boucher les oreilles, c'est aussi parce que je suis sensible au bruit. Donc j'ai tout le temps mes bouchons d'oreilles. Donc si vous me parlez dans les couloirs, je vous réponds pas. Faut me faire coucou. Je leur ai aussi expliqué que je devais me mettre au premier rang et seul, voilà, et d'avoir ma place à gauche de la table. Donc j'espère que j'aurai le plaisir de passer une bonne année avec vous. Et après, tout le monde m'a applaudi et j'étais très contente. Et en fait, c'est la première fois dans ma scolarité que ça s'est passé aussi bien et je me suis bien entendue avec les élèves. J'étais ravie.
Vous n'aviez jamais pensé à le faire ?
Ben, j'avais pas pensé à le faire parce que je savais pas que j'étais autiste Asperger. Je l'ai appris. Donc c'était en décembre 2013, la rentrée était en septembre 2014, donc je savais pas avant que j'étais autiste Asperger, donc j'avais rien à dire aux élèves. Donc rien, donc là j'avais quand même la légitimité d'un diagnostic qui était médical, qui était reconnu donc à la fois par le corps médical et par le corps du lycée. Donc c'est très différent. Les élèves, ils vont pas traiter de la même façon un cassos, comme ils disent, ou quelqu'un qui est handicapé. Les élèves ont quand même ce respect de, aujourd'hui, je trouve, de pas se moquer des handicapés, que ce soit physique ou mentaux. Donc le statut change complètement. Je pense que comme ils ont compris, ça s'est bien passé parce qu'avant, j'étais vraiment la fille complètement bizarre, complètement à côté de la plaque, l'espèce de petite faillotte première de la classe. Et du coup, c'était toujours très douloureux. Donc, mes souvenirs remontent à 3 ans, en fait, donc la maternelle. Là, déjà, je voyais que j'étais différente. Personne ne voulait s'asseoir à côté de moi en classe. Bon, j'avais pas d'amis, bien sûr. Donc, vraiment rejetée. Pareil pour le sport, hein, je suis très bonne en sport. Et pourtant, j'étais tout le temps choisie en dernière parce que j'étais l'amie de personne. Et aussi, alors on me traitait de clocharde parce que moi, c'est vrai, quand je suis fatiguée, enfin, je peux m'asseoir par terre, je peux m'allonger sur un banc parce que j'étais déjà très fatiguée. C'est hein, voilà, où on pouvait me courir derrière pour me griffer ou me cracher dessus. Comme j'avais un espoir absolument immense et inébranlable que tout s'arrangerait à l'adolescence, que tout serait merveilleux, que tout irait bien, que tous mes problèmes seraient réglés dès mon entrée en sixième. C'était pas facile, mais ça m'atteignait pas profondément, ça coulait un petit peu sur moi. Et en fait, c'était plus de la tristesse finalement. Il n'y avait pas trop de colère, il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait pas de... C'était difficile, mais ça allait s'arranger, j'en étais absolument persuadée. Je ne pouvais en douter, donc je vivais l'instant présent. Et tout me paraissait magnifique, et puis j'adorais aller en cours, j'aimais mon école, j'aimais mes parents, j'aimais une sortie au parc ou juste aller à Monoprix, ça pouvait être une aventure digne d'une épopée absolument incroyable. Puis en plus, des fois, j'aimais bien, voilà, je m'asseyais par terre et puis je regardais les gens, comment ils se comportaient pour essayer de comprendre, et puis je trouvais ça intéressant. Et puis alors, oui, je venais de me faire rejeter pour jouer à chat ou à l'élastique, mais j'étais, voilà, ce jour-là où j'étais assise par terre, il y avait vraiment ce rayon de soleil, l'air était tiède, c'était vraiment le printemps, et cette odeur de bitume chauffée par le soleil avec le vent dans les arbres, vraiment, je me sentais très bien. J'avais justement cette capacité d'apprécier la vie que j'avais, c'était pas un monde imaginaire, c'était pas du tout une bulle, c'était ma vie. Voilà. De la petite section maternelle jusqu'à ma terminale à Marie Curie, j'étais l'amie de personne. Donc vraiment rejeté. Et aussi alors les petites réflexions désagréables, alors ça pouvait être dictionnaire ambulant ou quand tu parles on comprend même pas ce que tu dis avec les mots que tu utilises. Vous pouvez me dire que j'étais space, alors en fait j'ai compris plus tard que space ça voulait dire spécial et moi je pensais que c'était stressé, donc du coup je disais ben oui c'est vrai. Et voilà, ou des réflexions, tu veux devenir prof plus tard, j'ai dit ben non, pourquoi, parce que tu t'habilles comme une prof, mais ça allait. Mais après il y avait des choses qui étaient vraiment plus difficiles, des surnoms désagréables ou des insultes, ton existence même polulaire. Voilà, SAF sans amis fixes. La chieuse aussi. Ah, mais c'est pas drôle, c'est horrible. C'est... Non, mais on me l'a tellement. Je sais, non, mais on me l'a tellement dit que du coup, maintenant, même si on me dit en rigolant que je suis chante, je le prends extrêmement mal, que je faisais chier le monde. Voilà, c'est ça que j'étais dérangeante, genre. Voilà, rien que quand je m'approchais, elle arrive, enfin voilà, on mimait des gestes, on partait en courant. Et on voit bien que ça les fait chier que je sois avec eux. Quand j'ai dû faire le TP, c'est travaux personnels encadrés, ça, c'est avec les notes du bac anticipées. Mais personne ne voulait se mettre avec moi en plus, enfin bon, c'était dans la classe, à chaque fois j'allais voir un groupe, ils trouvaient toujours une excuse, mais complètement. Plus bidon les unes que les autres pour pas que je me mette avec eux. Et du coup, oui, ça me renvoyait une image de moi qui était extrêmement négative. Je me sentais nue, je me sentais moche, pas du tout à la hauteur. Mais quand j'étais avec les autres, ça veut dire que quand j'étais avec moi, avec moi-même seule, et que je faisais des activités, je sais pas, je lisais ou je dessinais autre chose, vraiment, je m'aimais beaucoup. Je me trouvais super, je me trouvais géniale. Voilà, j'avais déjà des grandes ambitions pour mon métier plus tard. Mais voilà, tout le monde me trouvait bizarre, mais je comprenais absolument pas ce que je faisais qui pouvait déranger les gens. J'avoue, j'ai travaillé, mais j'ai encore un peu de mal à comprendre. Hein. Enfin, moi, je me trouve assez normal, c'est les gens que je trouve extrêmement bizarres, finalement.
Qu'est-ce que font vos parents ?
Alors, mon papa, il est professeur de cuisine dans un lycée professionnel et technologique. Et ma maman, elle est déléguée médicale. Donc, ma mère, elle était là physiquement, mais pas vraiment présente. Bon, elle faisait à manger, elle faisait le linge. Mais à part ça, pas de sortie au parc, les repas, enfin, elle venait tout le temps en retard. Et puis, ma mère me coiffait pas, c'est mon père qui me coiffait. C'est-à-dire, il me lavait les cheveux une fois par semaine. Donc du coup, il me les démêlait, c'était toujours une horreur. Et après, pendant une semaine, bah, j'avais les cheveux comme ça. Alors j'avais toutes les autres jeunes filles qui ont leurs petites couettes, les petites barrettes, les petites tresses, les petits chouchous, les petites robes. Moi, j'avais les baskets, le pantalon, le t-shirt, les cheveux qui partaient dans tous les sens avec juste un élastique. Bah, du coup, j'essayais de coiffer 2 minutes le matin. Mais voilà, ils me coupaient les ongles aussi. Il m'a amené chez le coiffeur. Voilà. Bon, après, il y avait des moments comme ça avec mon père où, quand ça allait pas, je venais le voir. Il venait dans ma chambre et puis on s'allongeait et puis je lui racontais. Et puis il m'écoutait, il y avait une véritable écoute et puis il me répondait. Ça avait toujours trouvé les bons mots. Et c'est vrai que c'était extrêmement important pour moi. Mais je pense pas que quelque chose de pathologique se manifestait. Voilà.
France Culture, les pieds sur terre.
Quand j'avais 7 ans, j'avais demandé à mes parents de m'emmener voir un psychologue. Alors, mes parents, très compréhensifs, ils ont accepté. Donc j'ai vu la psychologue qui m'a dit « Mais non, tout va bien, il n'y a pas besoin de suivi. » Ils ne voyaient pas de l'extérieur que ça se passait mal avec les autres parce que quand même, j'ai ce désir, je parle très facilement, je communique très facilement, même dans des situations où je ne devrais pas parfois. Bon, voilà, donc extérieurement, ça semblait aller bien. Voilà, juste une gamine un peu plus intelligente que les autres, un peu plus sensible. Mais je disais, voilà, bon, ben, ça va pas. Ce qui me faisait souffrir, c'était qu'on m'impose des choses que je ne comprenais pas. Voilà, moi, j'avais besoin qu'on m'explique. On peut me demander de faire n'importe quoi. Du moment qu'on me l'explique et que je comprends, je le fais. Et alors moi des fois on me pose des questions mais c'est terrible ce qui se passe dans ma tête, je bug et puis j'essaye de répondre et des fois c'est légèrement décalé, mais des questions pas assez précises, je sais pas ce qu'on attend de moi, ça déclenche une angoisse phénoménale. On me pose une question, je sais pas quoi répondre, comment répondre, ou je veux pas répondre, je sais pas comment dire que je veux pas répondre, je sais pas. Moi je voyais qu'il y avait quelque chose qui clochait, moi je le savais parfaitement. Donc en fait si on m'a diagnostiqué aussi tard, c'est parce que déjà j'ai une forme d'autisme Asperger qui est extrêmement atypique. Parce que dans la plupart des cas, ce qui est le plus manifeste, c'est une difficulté de communication, ce qui n'est absolument pas mon cas. Et donc en fait, alors bon voilà, j'ai eu ma première hospitalisation, donc j'avais 13 ans. Et en fait, donc la difficulté de me diagnostiquer à la fois parce que l'autisme Asperger est mal connu en France, bon, mais avant, on se demander quand même si j'étais pas bipolaire ou schizophrène ou état dépressif anxieux. Et en fait, j'avais beaucoup de symptômes extrêmement différents. On savait pas comment les interpréter. J'allais encore mal et mon psychiatre en avait marre de voir que j'étais dans cet état. Nous avons essayé pas mal de traitements. Voilà, j'ai eu pas mal d'hospitalisations et ça s'arrangeait pas. On savait pas ce qu'il y avait. Un moment où il a tapé du poing sur la table, il dit « ça suffit, il y a quelque chose, il faut trouver ce que c'est, on va vous faire hospitaliser, on va vous faire tous les tests qui sont possibles et vous sortirez pas tant qu'on n'a pas trouvé ce que vous avez et tant qu'on n'aura pas trouvé un traitement qui vous convient ». Et donc du coup j'ai fait tous les tests qui étaient possibles de faire au niveau de la personnalité, même électrocardiogramme, électroencéphalogramme, tout. Et en fait c'est vraiment le QI verbal que j'ai explosé entre guillemets. Et donc c'est la capacité, donc déjà tout ce qui est maniement du langage, compréhension, mémoire, ça va être voilà tout ce qui est les représentations intellectuelles, la culture générale, Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y avait un test comme ça. Voilà, le médecin disait une liste de mots et puis après, il fallait répéter le maximum de mots et puis il refaisait la liste. Et je me rappelle, j'ai recroisé le médecin 2 semaines plus tard et je lui ressortais la liste, alors ça l'a fait rire. Mais voilà aussi, bonne mémoire, mais aussi rapidité de lecture, rapidité d'analyse, voilà, intelligence à la fois synthétique et analytique. Donc, en fait, je suis très très intelligente, particulièrement ce qu'on appelle le QI verbal. Et en fait, cette intelligence associée au fait que j'ai vraiment un désir de partager avec l'autre et de m'intégrer dans la société, a fait que j'ai réussi à faire comme si j'étais normale à un très grand point qui faisait que j'étais juste quelqu'un, voilà, légèrement original mais absolument pas pathologique. Mais c'était un fonctionnement qui était extrêmement coûteux en énergie pour moi et du coup qui a amené beaucoup d'effets secondaires. Donc avec les autres, je paraissais normale, mais moi intérieurement, c'était complètement différent, mais ça ne se voyait pas. Et avec les médecins aussi, c'était difficile de le voir. Voilà, donc j'étais autiste. Il m'a expliqué, mon psychiatre, ce que c'était. J'ai dit, mais oui, c'est ça, c'est moi. Et en fait, je ne me définis pas à travers mon autisme. C'est ce mot-là, cette expression-là, qui définit qui je suis. Et en fait, c'était une libération. Je me suis sentie appartenue pour la première fois à la grande famille que sont les êtres humains. Voilà. Donc il y a tout un travail de reconstruction après à faire derrière. Et surtout, avant, je déployais toute mon énergie à m'intégrer, à essayer d'être normale. Et déjà, le premier pas, c'était de recommencer à pouvoir aller en cours. Parce que depuis très longtemps, le fait d'avoir pas pu être soignée correctement pesait très lourdement sur ma scolarité, ce qui est horrible, puisque moi, la scolarité, c'était la seule chose de bien que j'avais dans ma vie, puisque tous les autres domaines étaient un peu en bombardement. Et donc reprendre une scolarité déjà, donc c'est un vrai travail intérieur. Donc oui, il y a aussi donc les cours d'habilité sociale, en fait c'est pour cours d'habilité sociale, donc c'est pour les autistes Asperger. Donc moi, j'étais dans un groupe où les autres, ils étaient voilà, comme moi, qui parlaient assez bien intégrés dans la vie en général, mais pour nous apprendre à savoir réagir selon les différentes situations. Donc c'est par thème. Voilà, par exemple, le sujet, la famille, comment apprendre à recevoir un cadeau, accepter un cadeau, quand les gens se comportent comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis après, on fait des petits jeux de rôle où chacun, voilà, et puis on parle d'une situation qui nous arrivait, on explique comment on aurait voulu réagir, et à la fois pour savoir quel comportement adopter, dans quelles circonstances, et on nous explique pourquoi. Comment passer un entretien d'embauche, que qu'on arrive, même si ça pue dans le bureau, faut pas dire bon ben ça pue. Voilà, des codes dont j'avais même pas conscience avant. Et en fait, j'ai découvert que quand on demande à un garçon d'aller au cinéma, ben en fait c'est une invitation implicite pour dire qu'il lui plaît, qu'on voudrait sortir avec lui. Ben, j'ai découvert ça, ben, j'étais étonnée. Moi, quand je propose à quelqu'un d'aller voir un film, c'est parce que j'ai envie d'aller voir ce film-là avec cette personne. Voilà, donc on parlait à un moment du réchauffement climatique, on était en philosophie, puis j'ai dit à ma prof, vous avez pas à vous en inquiéter, parce que d'ici là, vous serez sûrement morte, vu que vous êtes vieille, bon. Mais, mais c'était pas méchant, hein. C'était pas méchant du tout. Et en fait, vraiment, cette spontanéité, enfin, c'est pas que je réfléchis pas, mais juste, je le pense, je le dis. Bah, de toute façon, tu vas bientôt mourir, ou des fois des choses, bah oui, t'es super moche, mais c'est pas grave, je m'en fiche. Sans faire exprès, je peux être extrêmement blessante, je dérange les gens, mais voilà, ça veut dire que la seule chose à laquelle je dois faire attention, c'est de ne pas les blesser dans leur intégrité, dans leur dignité. Voilà.
Mais vous sentez bien donc avec ce groupe de jeunes Asperger aussi?
Bah, moi, j'ai juste eu l'impression d'avoir rencontré ma famille, ma vraie famille.
Et Sybille, est-ce que vous prenez des traitements médicamenteux?
Oui, oui. Bon, j'ai commencé à prendre des médicaments à 17 ans. Ça a été très difficile, hein, parce que voilà, j'ai eu tellement de traitements différents que je ne me rappelle même plus du nom de tous. Et c'est ça qui m'a vraiment aidée, qui m'a permis de me stabiliser, de retrouver un sommeil, de suivre ma scolarité, de m'apaiser. Mais voilà, donc c'est pas censé être à vie, hein, c'est censé vraiment pour m'aider. Il y a quand même écrit sur la notice que c'est des médicaments qu'on donne que dans des cas graves de troubles psychiques et uniquement si tous les autres médicaments qu'on essaye ne marchent pas. Et il y a quand même comme effet secondaire, ça me fait beaucoup rire, alors je le dis à chaque fois que j'en parle, le morbide inexpliqué. Bon, ça va, c'est rare, mais du coup, je suis en train de diminuer dans une optique d'arrêter.
Vous étiez considérée comme la meilleure de la classe ?
On peut pas dire que j'étais la meilleure de la classe dans le sens où je faisais que la moitié des matières. Disons que j'ai vrai que j'avais la meilleure moyenne en philosophie, meilleure moyenne en littérature. Alors oui, un peu quand même en général comme la meilleure de la classe, mais pas la mentalité de première de la classe. J'allais qu'aux matières pour lesquelles je passais le bac.
D'accord.
Donc du coup, ça me faisait 14 heures de cours par semaine, c'était bien, c'était très très bien.
D'accord.
Et la permission de me reposer à l'infirmerie quand je voulais, y compris sur les heures de cours, et de pouvoir manquer les cours pour raisons médicales. Et en fait, c'était vraiment pour une tranquillité vraiment psychique. Ça veut dire que j'ai une très grande capacité de travail, je peux suivre les cours, mais pour ce que ça représentait pour moi, le fait de me dire que j'avais le temps, que je pouvais être tranquille, que je pouvais le faire en 2 ans, et puis aussi pour me remettre et avoir aussi le temps, moi, de me reconstruire. Et du coup, voilà, et cette année-là, c'était la bonne. Pour la 4e fois, je me suis présentée aux épreuves du bac, avec des excellents résultats. Donc j'ai eu 15 en philosophie, 20 en histoire-géographie et 20 en littérature.
Et si vous faites le bac là en 2 ans, donc quelle matière il vous reste à faire l'année prochaine ?
Donc les langues, donc anglais, littérature étrangère, espagnol et droit.
Et comment vous étiez considérée par les professeurs ?
Les professeurs, ils étaient très contents d'avoir une élève comme moi, ravis. En plus, c'était des matières par lesquelles j'ai une véritable... Enfin, c'est même pas une passion, c'est plus une obsession, je dirais. Et les élèves, ils m'aimaient bien.
Donc vous étiez un petit peu la vedette grâce à ça ?
Non, j'étais pas la vedette, je dirais plutôt un peu la mascotte, plus. Et ils voyaient que des fois, ça allait pas bien, que c'était difficile, que j'étais fatiguée, j'étais stressée. Puis voilà, quand ça m'arrivait de manquer les cours, je recevais des petits SMS. Mais on est avec toi, on te soutient, vas-y, tu peux compter sur nous, on sera toujours là pour toi et tout. Donc, solidarité. Ah, il y avait un élève dans la classe. Et c'est marrant parce que les gens pensent forcément que, comme je suis très intelligente, je vais être attirée que par des gens très intelligents. Mais l'élève dans la classe avec qui je m'entendais le mieux, il était vraiment considéré comme le cancre. Voilà, il avait 4 de moyenne, vraiment le gros bébé niais qui pose des questions complètement décalées au professeur, qui suit pas en cours. Bon, là, il a pas eu son bac, il était au rattrapage. Mais... moi, c'est celui avec qui je m'entendais le mieux, avec qui j'ai le plus parlé. D'ailleurs, s'il y avait une personne que j'aurais pu revoir en dehors du lycée, c'est de lui. Moi, je le trouvais mais pas du tout plus bête que les autres, mais justement, il avait cette simplicité, cette spontanéité, cette sincérité. Et c'était le plus cool avec moi. Dès que je suis arrivée, il m'a présenté aux gens de la classe, il m'a montré le lycée, il m'a dit « je vais tout expliquer ». Après, il s'est présenté aux élections déléguées, j'ai dit « je vais voter pour toi ». Il a été élu, mais... il a été adorable, mais en plus j'ai rien fait pour, vraiment il est venu spontanément vers moi. D'ailleurs, à un moment on avait fait un comme ça, alors c'était pendant les euros pour le bac, la prof de philosophie trouvait pas de salle. On a fini par faire cours dehors dans le parc du lycée La Canale. Je me rappelle que pendant l'heure de philosophie, il était sur mes genoux pendant 1h30, alors ça a bien fait rire tous les autres élèves de la classe. Mais en plus, il sentait trop bon, donc voilà, j'étais contente. Bon, il est homosexuel, donc il n'y a aucune ambiguïté, mais ouais, il était là, il se reposait sur mes seins, tranquille, ça faisait oreiller, puis on suivait les cours, au calme. Non, franchement, enfin, j'étais contente de le voir, quoi. Quand il était pas là en cours, j'étais un peu triste.
Et Est-ce que pour cette rentrée 2015, vous allez à nouveau vous présenter à la classe comme vous l'avez fait pour la précédente rentrée ?
Mais oui, bien sûr, je vais le faire. Ça permet aux élèves de comprendre et d'aménager les choses. Les professeurs aussi le savent. Pour moi, c'est indispensable.
My very first sleepover, I guess I was too young. I really was excited, I thought it would be fun. What we gonna do, girls? What we gonna play? Put on chubby checker and twist the night away. I follow the leader, follow the leader, I say. No, that one is for babies. Let's do truth or dare. Then they all played kiss the pillow and braided each other's hair. Between the peals of laughter, whispering in each other's ear, they said they had a story they wanted me to hear.
C'était Sibylle, la meilleure de la classe, un reportage de Leïla Djikli réalisé par Emmanuel Geoffroy et diffusé pour la première fois le 1er septembre 2015. Merci à Sibylle, bien sûr, à Pascal Crémer et à François Connac. Depuis la première diffusion de cette émission, sachez que Sibylle a eu son bac avec étonnamment pas de mention. Elle fait des études de psychologie à la Sorbonne et j'aurai des nouvelles plus récentes probablement d'ici à la diffusion de cette émission. Nous les noterons sur le site de l'émission à la page des Pieds sur Terre.
What we gonna do, girls? What we gonna play? Put on chubby checker and twist the night away.